Bonjour à tous. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Les hommes sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Les perfections invisibles de Dieu se voient dans la création. Mais comme il a été rappelé aussi, elles se voient dans la créature que Dieu a créée à son image. Et de même que les hommes sont inexcusables lorsqu'ils considèrent la beauté de la création, la variété. Moi, ce qui m'émerveille, c'est même la richesse des couleurs, de cette beauté qui n'a pas forcément une utilité, mais par contre qui a l'utilité de nous réjouir, d'avoir un Dieu qui a voulu que nous prenions plaisir à contempler sa création. Les hommes sont donc inexcusables. Ils ne peuvent pas dire « Dieu s'est jamais révélé à moi ». S'ils se sont un jour émerveillés devant un coucher de soleil, devant un magnifique paysage, alors ils ont vu Dieu. De même, personne ne peut dire « Dieu n'a jamais rien fait pour moi » si sur leur route, il y a eu un ambassadeur de Christ pour leur faire du bien. De même, ils ne peuvent pas dire « Dieu ne m'a jamais parlé à moi, ne s'est jamais intéressé à moi ». S'ils croient sur leur route un ambassadeur de Christ qui les a aimés, qui leur a parlé de l'amour de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous parler de cette mission d'ambassadeur de Christ que nous avons et vous raconter une histoire. Une histoire dans laquelle Dieu m'a placé sur la route de quelqu'un, ou plutôt a placé quelqu'un sur ma route. Jusqu'à dimanche dernier, 7h05 du matin, j'avais un cousin qui s'appelait Christophe. Il avait 46 ans. C'était un écorché vif, un révolté. Un cœur avide de pureté, de justice, d'amour vrai, mais qui avait choisi la colère, la révolte et l'insoumission comme arme de combat. Pendant une période de notre vie, nous avions tissé un lien particulier de tendresse et de respect qui avait perduré même pendant les années de silence. C'était il y a 18 ans. Nous avions alors échangé une correspondance assez fournie durant les 2 années qu'il avait passées en prison. Il avait été happé par la drogue dans sa jeunesse, dans le milieu du sport, et était tombé à ce moment-là pour trafic. Et c'est à ce moment-là que nous avons vraiment appris à nous connaître au travers de ces échanges, à nous apprécier, échangeant nos parcours, notre vision du monde, de Dieu, de la foi. Lui dans son univers plutôt sordide, et moi dans le mien, si protégé. Il ne comprenait pas comment je pouvais volontairement vouloir laisser les rênes de ma vie à quelqu'un d'autre que moi-même. Toute notion d'autorité était pour lui tellement négative qu'il ne parvenait pas à saisir la liberté que je pouvais trouver en voulant soumettre ma vie à Christ. C'est à cette période-là que le Seigneur l'a fait entrer au plus profond de mon cœur et il n'en est jamais ressorti. Après sa sortie de prison, nous sommes restés en relation régulière pendant quelques années, avec des temps forts, des moments où j'ai pu lui venir en aide matériellement, des moments où il a fait appel à moi, de longs échanges encore de lettres. Puis peu à peu, nous avons perdu le contact, lui reparti dans un monde si différent du mien, le monde de la nuit. Mais durant toutes ces années, j'ai souvent pensé à lui. Et n'avait qu'une hantise, c'était d'apprendre sa mort et d'apprendre qu'il était mort loin de Dieu. Et je priais pour lui, le remettant au Seigneur, qui le voyait où qu'il fût. J'avais la conviction que cet attachement particulier que Dieu avait placé dans mon cœur, que ces échanges que nous avons pu avoir, que cette parole qui avait été semée, c'était le reflet de la tendresse et de l'amour de Dieu et de l'intérêt de Dieu pour lui. Je me disais, moi qui suis si imparfaite dans la manière d'aimer, si peu même disciplinée dans ma vie de prière, si Dieu m'a mis à cœur ce cousin avec tant de force et de régularité et de persévérance, où je ne me reconnaissais pas, c'est que Dieu a un plan pour lui. Et ça m'a encouragée tout à l'heure en réentendant ce passage d'Ésaïe 55 qui dit « Ma parole ne revient jamais à moi sans effet, sans avoir auparavant accompli mon dessein. » Nous avons repris contact il y a seulement 8 mois, alors que j'avais appris qu'il était atteint d'un cancer et qu'il aspirait à renouer avec sa famille. Regrettant de ne pas l'avoir fait plus tôt, parce que ça faisait déjà quelque temps que j'avais sa nouvelle adresse, sa dernière adresse, je lui ai envoyé une lettre et reçu un coup de téléphone en retour. Il était tellement heureux de renouer avec sa cousine préférée, comme il disait, que j'ai réalisé à ce moment-là que ce lien tissé des années auparavant était intact. Nous avons repris nos contacts. Les traitements se sont succédés et la maladie était toujours là. Mais Christophe voulait garder l'espoir, coûte que coûte. Il acceptait les prières, disant qu'elles ne seraient pas de trop, mais se déclarait trop cartésien pour avoir la foi lui-même. Cartésien. Quel drôle d'adjectif quand on sait que ça vient de Descartes et que Descartes était croyant. Je projetais de profiter quelques jours en juillet pour aller le voir à Marseille, mais peu à peu, j'ai eu le pressentiment que ça serait trop tard. Et j'avais envisagé de descendre sur une journée prochainement. Puis il y a une semaine, il a été hospitalisé. Son état s'est dégradé. Et la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, mercredi dernier, il était si affaibli qu'il avait du mal à tenir le téléphone et on a dû écourter notre conversation. À ce moment-là, je lui ai demandé s'il était angoissé. Il m'a répondu que non, car il gardait espoir. Comme à son habitude, il a lutté jusqu'au bout, parvenant même à persuader ses proches quasiment jusqu'à la fin qu'il s'en sortirait. Le jeudi matin, il descendait encore en radiothérapie. Le soir, il a été retiré de l'Argeron, au rez-de-chaussée de l'hôpital. Il a appelé un taxi et s'est rendu chez la mère de son fils. Il a monté 4 étages à pied pour retrouver sa famille réunie pour fêter les 20 ans de son fils. Il tenait tellement à être aux 20 ans de son fils. Ce même soir, je partageais avec notre groupe de maison mon inquiétude, mon désir d'aller le voir avant qu'il ne soit trop tard, mon fardeau pour que Dieu puisse l'accueillir dans ses bras. Ça faisait des mois que je priais le Seigneur que surtout il ne meure pas sans s'être réconcilié avec lui. On savait très bien que l'issue serait ça. Mais je voulais que la mort survienne pour l'emmener dans les bras du Père. Cette nuit-là, j'ai été convaincue d'annuler tous mes rendez-vous et de partir dès le lendemain, vendredi matin, pour descendre à Marseille. Je suis partie sans avertir personne là-bas de mon arrivée. J'ai pas pris de billet retour. Je savais pas très bien ce que j'allais trouver, comment ça allait se passer, mais je savais qu'il fallait que j'y aille. Avant de partir, nous avons prié avec Pierre-Yves que le Seigneur me remplisse de son Saint-Esprit, qu'il guide mes paroles, mes attitudes. Je me savais aussi soutenue par la prière des frères et sœurs du groupe de maison. Et là, juste avant de partir, Pierre-Yves a reçu sur son portable un SMS. En fait, c'est un ami qui n'est pas du tout au courant de ce qui se passait et qui régulièrement nous envoie, il envoie tout son carnet d'adresses un verset. C'est son truc. Souvent, on reçoit le verset, on lit, vous savez, on en connaît tellement des versets. Et ce matin-là, le verset qui nous était arrivé, c'était Ézéchiel 18:32 qui dit « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Juste avant de partir, nous recevions ce verset « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. » C'est comme si Dieu me disait « Tu as le désir qu'il parte pour la vie éternelle, mais moi j'ai ce désir aussi. » Celui qui meurt, c'était mon cousin. Et je ne désire pas la mort de celui qui meurt, mais qu'il vive. Je suis partie dans une paix qui m'a étonnée. Je me suis dit, je dois vraiment être soutenue par les prières. Je suis partie très en paix. Et effectivement, le vendredi matin, il était tellement mal et en telle détresse respiratoire qu'un traitement de morphine et d'anxiolytique avait été instauré en continu. C'était le début de la fin. Je suis arrivée en début d'après-midi alors qu'il était encore conscient. Il luttait visiblement contre l'endormissement provoqué par le traitement. Il était surpris de me voir soudain dans sa chambre et la joie qu'il a manifestée à ce moment-là m'a fait chaud au cœur. Mais surtout, ce qui a été très étonnant, c'est qu'à plusieurs reprises ce jour-là, ce soir-là et même cette nuit-là, alors que les phases d'endormissement étaient de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues, dès qu'il ouvrait les yeux et les posait sur moi, il avait une réaction étonnante. J'avais l'impression, ce que je me suis dit sur moi, j'ai l'impression qu'il voyait un ange. Il disait, mais c'est dingue, c'est incroyable. C'est pas... Et puis, il souriait, il tendait les bras, et j'étais là. Et aucun mot sortait, simplement je lui souriais. Et je me suis dit, soit je n'avais pas réalisé ce que je représentais pour lui, et la surprise de ma présence lui procurait manifestement un grand plaisir, et c'est ce que les gens autour de lui ont cru. Soit, et c'est vraiment l'impression que j'avais, il voyait plus que ce qu'il y avait à ce moment-là dans cette pièce. Il voyait celui qui était avec moi. C'était ma prière en tout cas. Il était trop faible pour tenir une conversation, mais j'étais en paix de rester dans le silence alors que nos échanges se sont surtout faits par les yeux. Je suis restée toute la nuit auprès de lui, cette nuit-là, avec ma tante. Le lendemain midi, il ne réagissait plus du tout. Je l'éveillais encore avec ma tante la nuit suivante. Puis il est mort au petit matin et je lui ai fermé les yeux. Peu de mots ont été échangés, en dehors de quelques paroles murmurées à son oreille alors qu'il ne réagissait déjà plus. Alors pourquoi ? Pourquoi suis-je rentrée chez moi avec la conviction qu'il s'était passé quelque chose entre Christophe et Dieu ? Que le bon berger avait enfin retrouvé sa brebis perdue, l'avait prise dans ses bras pour la ramener à la maison. Peut-être à cause de cette paix incroyable qui m'a accompagnée du début à la fin, l'impression d'être là où Dieu voulait m'utiliser, que dans ce que je n'avais pas dit, dans ce que j'avais été, c'était ce que Dieu voulait pour agir. Peut-être à cause de ce verset tombé à pic juste avant que je parte qui était comme une promesse pour moi que Dieu était à l'œuvre. Peut-être à cause de ces réactions étonnantes de Christophe qui me donnaient vraiment l'impression qu'il y avait autre chose que simplement la joie de me voir. Peut-être aussi à cause de cette persévérance au cours des années à intercéder pour lui. Et je vous dis, c'est pas mon fort, la persévérance et la discipline dans la prière. Mais de me dire, mais pour que j'ai eu à cœur Christophe, moi qui suis si imparfaite dans mon amour, c'est que Dieu aussi l'avait à cœur. Que tout ce qui avait pu être semé des années auparavant, et il savait, il avait entendu la parole, ne pouvait pas revenir à Dieu sans effet. Et pourtant, des doutes, des culpabilités, des regrets, dès mardi, j'en ai eu plein. Pourquoi pas plus de mots ? Et j'ai relu toute la correspondance qu'on avait eue ensemble, et je me suis dit, mais il avait déjà tout entendu, tout compris intellectuellement, même si à l'époque, cela lui paraissait la douce folie de sa cousine. Ce n'étaient pas des mots dont il avait besoin, mais d'une rencontre, d'un face-à-face avec le Seigneur. Et j'aimerais ce matin partager quelques réflexions qui me sont venues cette semaine au travers de cette expérience, à partir d'un texte que vous trouverez dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, et qui m'a semblé bien mettre des mots sur ce que j'ai pu ressentir. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 19 à 20. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et cette phrase qui m'a touchée, c'est « Nous sommes ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous », avec des mots ou sans mots. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes les représentants de Christ sur terre. L'ambassadeur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui représente un État dans un pays étranger. Nous sommes étrangers et voyageurs sur terre, dit la Bible. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur cette terre. Nous sommes censés le représenter, parler en son nom, agir en son nom, aimer en son nom. Il a mis en nous la parole de réconciliation, dit verset 19. Christ nous envoie refléter son cœur et sa lumière auprès d'hommes et de femmes qu'il place sur notre route, et les appeler à la réconciliation avec lui. Il place des prochains sur notre route, dans la vie desquels il veut se manifester. Que nous sachions garder les volets de notre cœur ouverts, pour qu'ils voient la lumière de Christ briller en nous. Trois idées à partir de ça. Dieu nous utilise pour faire du bien de sa part. Deuxième idée, il nous utilise pour refléter son cœur. Oui, tu peux déjà montrer les trois idées. Troisième idée, notre mission ultime, exhorter à la réconciliation. Dieu nous utilise pour faire du bien de sa part. Jésus a dit en Matthieu 5,16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous culpabilisons parfois lorsque nous avons l'impression dans nos églises de faire du social et que l'évangile n'est pas clairement prêché. Mais aider, aimer concrètement, c'est vivre l'évangile, avec ou sans mots. Dieu nous demande de vivre l'évangile, d'aimer en son nom, de visiter les prisonniers en son nom, de donner à boire à ceux qui ont soif, de donner à manger à ceux qui ont faim en son nom. À chaque fois que, motivés par l'amour de Christ, nous apportons notre soutien à quelqu'un, qu'il soit matériel, relationnel, spirituel, nous rayonnons la lumière de Christ dans la vie de cette personne. Et cette personne ne pourra jamais dire « Dieu n'a rien fait pour moi ». On est parfois plus doué pour prêcher l'évangile que pour vivre l'évangile. En relisant les lettres de Christophe cette semaine, j'ai réalisé, je pense à l'époque, j'étais assez jeune et cet univers m'était très étranger, moi, dans mon petit cocon doré. J'ai réalisé à quel point mes lettres lui avaient fait du bien et avaient apporté de la lumière et de la chaleur dans ses ténèbres et sa solitude. Il me le renvoyait dans ses lettres, c'était incroyable. Mais moi, je ne mesurais pas. On ne mesure pas toujours l'impact qu'un peu d'amour, de soutien, d'attention peuvent avoir sur quelqu'un qui souffre. Dieu nous utilise pour faire du bien de sa part. Dieu nous utilise pour refléter son cœur, la deuxième chose. 1 Jean 4, 12 nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Les perfections invisibles de Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais l'amour de Dieu peut se voir au travers de l'amour que ses enfants manifestent, que ses ambassadeurs manifestent. Dieu aime à travers nous. Quelle responsabilité, n'est-ce pas? Combien de fois laissons-nous Dieu nous remplir au point de pouvoir aimer les autres comme Dieu les aime? Car c'est dans notre capacité que seul Christ nous donne à aimer, à offrir pardon et acceptation que peut s'exprimer le cœur de Dieu envers notre prochain. Une autre lettre de Christophe disait, à un moment donné, j'avais complètement oublié plein de choses de ce qui était dans ces lettres. Je serais très curieuse d'ailleurs de récupérer l'autre moitié des lettres, celles que j'avais pu envoyer pour voir des fois par rapport à quoi il réagissait. Il a réagi parfois assez durement par rapport à ma foi. Mais à un moment donné, il dit « Si c'est Christ qui te permet d'être heureuse, sincère, honnête dans ses sentiments et généreuse, alors je l'en remercie. Et je voudrais que tout le monde croie, sauf moi, bien sûr. » De pouvoir voir que si nous sommes capables d'aimer, c'est parce que l'amour de Christ nous remplit. Veillons à ne rien laisser venir obscurcir la lumière de Christ. Ni péché, ni amertume, ni rancune, ni colère. Mais apportons tout cela quotidiennement à Christ afin qu'il nous libère de tout ce qui pourrait entraver notre amour pour ceux qui nous entourent et les uns pour les autres. Troisième chose, notre mission ultime, exhorter à la réconciliation. « Nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait à travers nous, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que le dessein ultime de Dieu, son désir encore plus fort que notre propre désir, c'est la réconciliation. Cette réconciliation, il la désire plus que nous. Et il choisit de nous utiliser comme ses ambassadeurs, non pour honorer notre désir de sauver les autres, mais pour que nous servions son dessein. Par nos paroles, notre témoignage, bien sûr, mais qui n'ont aucune valeur sans une vie et des attitudes qui reflètent la personne de Christ. Les paroles viennent en leur temps, parfois avant, parfois après, mais l'action de réconciliation appartient à Dieu et à l'action de son esprit. Ce verset a mis des mots sur ce que j'ai ressenti ce week-end. J'ai vraiment eu le sentiment que Dieu exhortait Christophe à travers moi, le suppliant de se réconcilier avec lui. Mes mots n'étaient plus nécessaires à ce moment-là. C'est Dieu qui parlait par ma présence, dans un dialogue dont la teneur m'échappait, mais dont je pressentais la réalité, alors que l'apaisement se lisait progressivement sur son visage. Les sceptiques diront que tout cela est bien subjectif, c'est vrai. Mais cela fait partie des moments de ma vie où j'ai eu la paisible conviction d'avoir été là où Dieu me voulait, de la manière dont il désirait, par laquelle il désirait agir. Le reste appartient à Dieu envers qui je conserve toute ma confiance et mon amour. Que le Seigneur fasse de nous des ambassadeurs, remplis de sa lumière et de son amour, pour le représenter fidèlement auprès de ce prochain qu'il place sur notre route de façon si particulière. Amen.